Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du lundi 29 avril 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Les électeurs togolais se rendent aux urnes pour des élections législatives régionales cruciales.
Nous ne pouvons pas nous autoriser à laisser Pelé perdre sa position de fief du Parti Uni au Togo. Ne gaspillez pas les bulletins et que ce jour du 29, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie.
Dernière semaine de la campagne électorale au Tchad.
Et quand j'ai dit qu'ils n'ont pas de programme politique, hier l'un d'entre eux a montré un programme politique à peine deux pages.
Il veut être président pour devenir président seulement.
Interdiction de sortie du territoire pour deux ministres et un ancien ministre en RDC suite à des soupçons de détournement de fonds. La Maison-Blanche appelle au pacifisme dans les manifestations pour Gaza dans les universités américaines. Le commandant chef de l'armée ukrainienne admet une détérioration de la situation sur le front face au succès tactique russe. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Les Togolais votent ce lundi lors de législatives régionales. Ces élections ont de grands enjeux depuis l'adoption d'une nouvelle constitution contestée par l'opposition. Yacouba Ouédraogo.
L'opposition, qui avait boycotté les dernières législatives de 2018, fait face à la grosse machine du parti au pouvoir. Selon la nouvelle constitution adoptée le 19 avril, le président sera élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois par les députés. Le pouvoir va résider désormais entre les mains d'une sorte de super premier ministre qui sera obligatoirement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le chef du parti vainqueur des élections de ce lundi sera nommé à cette nouvelle fonction. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père, est le président du parti majoritaire actuellement à l'Assemblée, l'Union pour la République. Des responsables des partis politiques, de l'opposition et d'organisations de la société civile dénoncent cette réforme qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel pour permettre à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir. Ils ont annoncé des actions d'envergure les prochains jours et déposé un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO pour réclamer le retrait de ce texte.
Le premier ministre de transition, Succès Mastra, l'un des principaux candidats à la présidence du Tchad, a rassemblé dimanche des milliers de personnes à Mundu lors d'un meeting où il a pu s'assurer du soutien du sud du pays, bastion de l'opposition. Le chef du parti Les Transformateurs et candidat de la coalition Justice et Égalité à la présidentielle du 6 mai a salué la consécration offerte par Mundu, une ville marquée par une longue histoire de combats politiques dans les rangs de l'opposition. Vendredi, en son même lieu, le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno avait tenu un meeting devant une audience bien plus esparse et ordonnée. Après la BBC et VOA, le Burkina Faso a décidé de suspendre la télévision francophone TV5 Monde pour 2 semaines, ainsi que plusieurs sites d'information étrangers jusqu'à nouvel ordre, tous accusés d'avoir diffusé un rapport accusant l'armée de tuerie. Abdourahmane Dia.
Le Conseil supérieur de la communication a suspendu la diffusion des programmes de la télévision internationale TV5 Monde au Burkina Faso pour une durée de 2 semaines. L'autorité de communication a également décidé de la suspension de l'accès au site web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest France, Lemonde.fr, APA News, The Guardian et Agence Ecofin à partir du territoire burkinabé, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle série de suspensions intervient 2 jours après celle des radios britanniques BBC et américaines VOA pour une durée de 2 semaines. Le Conseil justifie les nouvelles suspensions par la diffusion du contenu d'un rapport de Human Rights Watch publié jeudi et accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants, dans 2 villages le 25 février. Le ministre burkinabé de la Communication a indiqué que le Burkina rejette et condamne fermement de telles accusations infondées. Les tueries de Nodin et de Soro ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, a-t-il ajouté. Selon le porte-parole, toutes les allégations de violations et d'abus de droits humains rapportées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme font systématiquement l'objet d'enquêtes suivies par le gouvernement et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ces nouvelles suspensions suivent celles temporaires ou définitives prises à l'encontre de plusieurs autres médias étrangers.
En RDC, deux ministres et un ancien ministre se sont vus interdire ce week-end de quitter le territoire national. La justice congolaise enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics. Mohamedou Oumfa.
Dans une lettre datée de samedi, le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, demande aux agents de la Direction générale des migrations d'interdire à trois hommes de sortir de Kinshasa et du territoire congolais. Il s'agit des ministres des Finances, Nicolas Kazadi, du Développement rural, François Robota, et le prédécesseur de ces derniers, Guy Mikoulou. Selon une source proche de Nicolas Kazadi, celui-ci s'est effectivement vu interdire samedi de quitter Kinshasa pour la France, où le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est en visite officielle ce lundi et demain mardi. Lors d'un briefing tenu le 24 avril, M. Kassadi avait été interrogé sur des allégations de surfacturation dans un contrat de forage et station de traitement d'eau à travers le pays et dans un autre dossier concernant l'installation de lampadaires à Kinshasa. Il s'était défendu de toute infraction, affirmant au contraire avoir demandé aux parties prenantes à ces contrats d'en réduire les coûts. S'il y a des gens qui ont surfacturé, ce n'est certainement pas moi, avait-il dit, à propos des forages, trouvant triste d'être mis en cause par la rumeur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche appelle les manifestants exprimant leur soutien à Gaza à rester pacifiques. Ces manifestations se sont multipliées ces derniers jours dans les universités américaines. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Nous respectons bien évidemment le droit à des manifestations pacifiques, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Il dit condamner les propos antisémites entendus ces derniers temps et tous les discours de haine et menaces de violence qui circulent. Parti la semaine dernière de l'université new-yorkaise Columbia, ce mouvement de protestation contre la guerre que conduit Israël dans la bande de Gaza s'est étendu à d'autres campus américains. Au cours du week-end, environ 275 personnes ont été interpellées sur les campus d'université. Jill Stein, candidate du Green Party à l'élection présidentielle de novembre, a été interpellée sur le campus de la Washington University à Saint-Louis, dans le Missouri. Les étudiants dénoncent le soutien militaire des États-Unis à son allié israélien et réclament à leur université de couper toute relation avec des entreprises en lien avec Israël. Le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont parlé de nouveau hier au téléphone. Les deux États alliés ont passé en revue les discussions en cours sur la libération d'otages ainsi que sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué.
Le Hamas donne ce lundi sa réponse à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël à Gaza, assiégé et menacé de famine, associé à une libération d'otages. Il s'agit d'une proposition élaborée par l'Égypte et amendée par Israël. Une réunion tripartite doit avoir lieu au Caire entre l'Égypte, le Qatar et le Hamas. L'atmosphère est positive, sauf nouveaux obstacles posés par Israël, a indiqué un responsable du Hamas qui a requis l'anonymat. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Arabie Saoudite, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il est attendu cette semaine en Israël, où il s'était rendu pour la dernière fois en mars, ainsi qu'en Jordanie, a annoncé le département d'État américain. Dimanche, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a reconnu hier que la situation sur le front s'est détériorée, les troupes russes ayant remporté des succès tactiques dans plusieurs zones. Gabi Dorsil.
La Russie attaque activement tout le long de la ligne de front. Elle remporte des succès tactiques dans certains secteurs, a déclaré le général Oleksandr Sursky. Selon lui, l'armée russe a concentré ses efforts dans plusieurs secteurs, créant un avantage significatif en termes de force et de moyens. Le général Sursky a rapporté de violents combats au cours de la semaine écoulée, évoquant une situation dynamique avec certaines positions prises par l'un puis l'autre camp plusieurs fois au cours d'une seule journée. Il a admis que les troupes ukrainiennes s'étaient retirées de certaines localités et évoqué une situation tendue dans le sud du pays. Mi-avril, le commandant en chef ukrainien avait déjà évoqué une situation qui s'était considérablement détériorée avec une intensification significative de l'offensive russe depuis mars. Les autorités ukrainiennes espèrent combler le déficit d'armes et de munitions grâce à l'enveloppe de quelque 61 milliards de dollars d'aide approuvée par le Congrès américain après des mois de blocage en raison de querelles politiques à Washington.
Les ministres du G7 se réunissent ce lundi à Turin pour discuter environnement et stratégie face au changement climatique. Les experts appelant ces grands pays industrialisés à utiliser leur influence. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nathalie Barge.
La compagnie minière australienne BHP veut racheter Anglo American pour 38,8 milliards de dollars, ce qui pourrait créer le principal producteur de cuivre mondial. Le conseil d'administration du groupe britannique a toutefois rejeté l'offre, l'estimant sous-évaluée. Une éventuelle fusion entre les deux géants miniers impliquerait une cession par Anglo American de ses activités de production de platine et de fer en Afrique du Sud. La multinationale avait annoncé en début d'année son intention de supprimer des milliers d'emplois dans le pays. L'Afrique du Sud, l'Espagne et l'Allemagne ont apporté leur soutien au projet de taxation mondiale des plus riches défendu par le Brésil à l'occasion de sa présidence du G20. Dans une lettre publiée par des médias européens, des ministres de ces pays et du Brésil assurent que cette initiative constituerait un pas important dans la lutte contre les inégalités. Ces deux dernières décennies, l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres a presque doublé, souligne-t-il, ajoutant que cela nuit au développement économique. Une escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait provoquer des perturbations de l'offre de pétrole et pousser le prix du baril de Brent à plus de 100 dollars, estime la Banque mondiale dans un rapport publié hier. Elle souligne aussi qu'un conflit plus large pourrait faire grimper les prix du gaz naturel, des engrais et des denrées alimentaires, ce qui aurait un fort impact sur l'économie mondiale en faisant repartir l'inflation.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Eric et bonjour à tous.
Football à la une avec le dénouement des demi-finales des interclubs de la CAF et le Zamalek est en finale.
Eh oui, une semaine après le 0-0 au Caire, le club égyptien a réalisé une performance exceptionnelle en allant battre les Ghanéens du Trum FC chez eux 3-0. Le 12 mai prochain pour la finale aller, le Zamalek du Caire affrontera pour le moment la Renaissance du Berkane qui, comme à l'aller, n'a pas pu affronter hier le tenant du titre, l'USM Alger. Pour rappel, les Algériens contestent le maillot que porte le club de Berkane sur lequel est dessinée la carte du Maroc incluant le Sahara. La CAF avait déjà tranché lors du match aller, donnant une victoire 3-0 sur tapis vert à la Renaissance du Berkane. Eric, une affaire qui risque de finir au tribunal arbitral du sport.
En Ligue des Champions, Al Ahly du Caire lui défendra bien son titre.
Oui, suite à sa nette victoire de 3-0 face au TP Mazembe de Lumbashi, qui n'est pas prêt d'oublier cette débâcle, d'où l'amertume de son entraîneur, Lamine Ndiaye, très déçu du comportement des arbitres du match.
Ce match-là ne mérite pas de finir à 3-0. Déçu, parce que, vous savez, en Afrique, je pense, si on veut avancer vraiment, il faudra que les arbitres soient sérieux. Parce que dès le début du match, on a vu qu'il arbitrait que dans un sens. Et ça, vous savez, nous sommes des êtres humains. Ça décourage, ça déconcentre. Et je pense qu'il a joué un rôle très négatif dans ce match-là. Et Ahly n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup d'efforts. Si on veut vraiment progresser en Afrique, il faut faire des efforts de ce côté-là.
En finale, Al Ahly du Caire croisera l'espérance de Tunis qui a éliminé les Mamelodi Sundowns.
Du basketball à présent, et on connaît les deux qualifiés de la conférence du Nil de la Basketball Africa League.
Et sans surprise, Ali Benghazi, vainqueur 110-118 des Ougandais de City Oilers, ainsi que Al Ahly du Caire, qui a même fini en tête du classement après avoir battu Bangui Sporting Club 94-111. Le club centrafricain peut toutefois espérer prendre l'une des deux meilleures troisièmes places à l'issue des matchs de la conférence Sahara qui débute samedi prochain.
On termine avec du handball, Élisée, l'épilogue du 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs des coupes en Algérie.
Et chez les hommes, c'est l'espérance de Tunis qui remporte le trophée en battant les Égyptiens du Zamalek sur le score de 30-25. Au niveau des dames, le primero d'Augusto s'offre la finale suite à sa victoire après les prolongations 23-22 aux dépens de son homologue du Petro de Luanda.
La page des sports signée Élisée Onkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. En ce lundi, 4,2 millions d'électeurs togolais se dirigent vers les urnes pour participer aux élections législatives et régionales visant à élire 113 députés et 179 conseillers régionaux. Cette course pour le renouvellement de l'Assemblée nationale et l'établissement des conseils régionaux compte la participation de plus de 19 partis politiques et de listes des candidats indépendants. La campagne électorale de 2 semaines a pris fin samedi avec les derniers moments suivis par notre correspondant Kossi Oussou dans la région des Plateaux. Voici son reportage.
Ambiance de grand jour dans la ville de Kwele Adeta, à 150 km au nord-est de la capitale Lomé. Yawa Tchegan, la présidente de l'Assemblée nationale, candidate à sa réélection aux législatives, martèle les consignes lors de sa dernière sortie pour cette campagne électorale.
Nous ne pouvons pas nous autoriser à laisser Kwele perdre sa position de fief du Parti Uni au Togo. Ne gaspillez pas le bulletin et que ce jour du 29, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Je sais que Kwele est engagé, je sais que Kwele va faire des miracles et que le soir du 29, Kwele va renouveler sa confiance à un niveau inégalé.
À une centaine de kilomètres de là, dans la ville d'Atakwame, l'ambiance est plus studieuse au siège du parti de l'opposition ANC. En ce dernier jour de la campagne électorale, Akpovi Tairou, le responsable préfectoral du parti, peaufine les dernières stratégies de conquête de l'électorat. Il est confiant pour la suite des événements, vu le travail abattu par son équipe.
Ceux-là disent aux gens que vous votez, nous allons gagner. Vous ne votez pas, nous allons gagner. C'est pour affaiblir ceux de l'opposition. Moi, mon message pour les électeurs de Logo, c'est de sortir et aller voter massivement. Moi, je suis sûr que s'ils ne font pas leur manigance, l'ANC va trouver 2 sièges. Et au niveau de régional, nous allons trouver là-bas largement.
Ika Maoussi, enseignant à la retraite dans le petit village de Didokpo, sur les plateaux d'Akposso, n'a pas vu passer un seul candidat aux élections durant les 2 semaines de campagne électorale. Il se désole de cette situation.
Pour cette élection, il n'y a pas eu tellement d'enthousiasme dans mon village d'Idobo. Contrairement aux habitudes, les candidats ne se sont pas présentés. Nous aurions aimé que les candidats passent à tour de rôle, qu'on les entende et on leur pose toutes les questions possibles.
Dans la Kébou, les populations ont transmis des doléances aux candidats qui sont venus les courtiser. Komina, un natif de la préfecture, en parle.
Donc il y a le problème des centres sanitaires qui se posent, il y a le problème de pistes, il y a la couverture électrique aussi, que la préfecture n'est pas totalement couverte. Il y a aussi le problème d'eau potable, il y a des forages qui sont construits par ici par là, dans les différents cantons, mais c'est toujours insuffisant.
Les réponses à ces doléances pèseront certainement sur le vote de ce lundi, qui sera scruté par une cinquantaine d'observateurs internationaux aux côtés de plus de 4000 nationaux accrédités par la Commission électorale nationale indépendante. Kossi Oussou, dans la région des Plateaux, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Dans la dernière semaine de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 6 mai au Tchad, les 10 candidats en lice parcourent le pays pour allier leur électorat. Toutefois, sur le terrain, 3 candidats se démarquent. Le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno, celui de la coalition Justice et Égalité, Dr Massra Succès, et l'ancien Premier ministre Albert Pahmi Padake. André Kodma Djingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Les candidats n'ont que 6 jours pour convaincre les électeurs encore indécis. Parmi les 10 candidats qui cherchent à accéder à la magistrature suprême, très peu ont la possibilité d'être en contact direct avec leurs militants et sympathisants dans le Tchad profond.
Je pars à Béché, ils partent à Béché. Je pars à Mongo, ils sont derrière moi. Je pars à Ti, ils sont derrière moi. Parce qu'ils n'ont pas d'idées, ils ne sont pas créatifs.
Mahamat Idriss Déby Itno, candidat de la coalition Tchad Uni, il fait allusion ici à son principal adversaire, Docteur Succès Masra.
Ils m'écoutent, ils prennent mes idées et après ils viennent, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand je dis qu'ils n'ont pas de programme politique, hier l'un d'entre eux a montré un programme politique à peine 2 pages.
Il veut être président pour devenir président seulement. Et après, dès qu'il y a quelque chose, ils seront les premiers à fuir. Mais moi, président ou pas, je serai toujours avec vous. Je ne vais pas fuir au premier coup de feu.
Son premier ministre, lui aussi, candidat à cette élection présidentielle, Dr Succès Masra, met en garde les institutions en charge de l'organisation de cette consultation électorale.
Vous avez votre téléphone portable. Vous êtes connecté. Vous pouvez filmer les résultats. Et vous nous envoyez les résultats.
Il prévient contre la coupure d'Internet pendant le scrutin.
Moi, en tant que chef du gouvernement, ayant le pouvoir de la Constitution, aujourd'hui, je vous dis que moi, je ne prendrai jamais la décision de couper Internet le jour de l'élection. Parce que tout va se faire dans la. Vous avez donc bien compris. Si quelqu'un coupe Internet, commencez à savoir déjà que nous sommes en train de gagner. Donc, on ne coupera pas Internet. Et l'armée se rangera du côté de ceux qui auront gagné. Et puis vous qui êtes enregistrés avec vos cartes d'étudiants, vous pouvez aller voter. Avec les actes de naissance, vous pouvez aller voter. Avec les actes de mariage, vous pouvez aller voter. Avec votre passeport, vous pouvez aller voter. Avec votre identité nationale, vous pouvez aller voter.
Le constitutionnaliste professeur Ahmad Mahamat Hassan, lui, plaide pour une transparence du processus électoral.
Cette ouverture a été faite parce qu'il y a une désapprobation des Tchadiens et des Tchadiennes. Ils ne viennent pas chercher les cartes électorales. Les Tchadiens ne croient pas à ça. Et deuxièmement, on ne voudrait pas que les bureaux de vote soient vides. Ça donne une mauvaise impression parce que, comme au référendum, on a eu ce problème. Si le taux n'est pas important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédibilité à cette consultation. Le souci, c'est celui-là. Où on a fait des ouvertures, même celui qui a les papiers du moulin, il vient voter. Mais sinon, c'est illégal. C'est une violation constitutionnelle. Pas légale seulement. Parce que le vote, c'est un droit reconnu aux citoyens et citoyennes tchadiennes en âge de voter et qui ne sont pas sous la condamnation judiciaire.
L'Agence nationale de gestion des élections met en garde les candidats qui demandent à leurs militants de photographier les procès-verbaux des résultats et autres documents électoraux au moment du dépouillement. De tels agissements, selon la dite institution, peuvent entraîner des troubles à l'ordre public et pourraient exposer les contrevenants à la rigueur de la loi. André Kodouma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les assises nationales du dialogue inclusif au Gabon ont pris fin et le rapport des travaux sera présenté au chef de l'État demain mardi 30 avril au palais présidentiel à Libreville. Ce rapport détaillé propose plusieurs recommandations, notamment le maintien de la durée de la transition, la confirmation de l'éligibilité du général président Brice Clotaire-Oligui Nguema et l'adoption d'un régime présidentiel par la commission politique du Gabon. Plus de détails avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
À la fin de ces assises, ces missions accomplies pour les délégués choisis pour dessiner les contours du nouveau Gabon. Après 3 semaines d'intenses débats en commission, le rapport général des travaux sur la réforme politique et institutionnelle suscite l'acclamation du public. La durée de la transition reste maintenue à 2 ans avec une proposition de 12 mois supplémentaires en cas de force majeure. Benga Bangon faisait partie du panel des experts du dialogue national inclusif.
On a mis en avant le pays dans tous ses aspects. Il n'y a rien à négliger, il n'y a rien à... Tout est urgent.
Si certaines voix s'élèvent pour dénoncer le caractère non souverain de la concertation, pour les participants aux assises, il s'agit d'un rendez-vous qui a tenu ses promesses. Francis Jean-Jacques Evouna, membre de la commission économique, appelle au soutien du chef de la transition et de son agenda.
Il fallait effectivement redessiner les contours d'un mieux-être des populations gabonaises. Et je crois qu'il a un cœur à gauche, c'est-à-dire il est assez généreux. Et c'est pour ça que justement les Gabonais, le peuple gabonais devrait soutenir un tel personnage.
au chapitre des recommandations formulées par le dialogue, la nationalisation des emplois dans certains secteurs d'activité comme les transports, la préférence nationale aux hautes fonctions administratives ou encore les conditions d'acquisition de la nationalité gabonaise. Les débats plus animés concernaient la suspension des partis politiques en attendant les nouvelles règles pour leur création. Idem pour le projet d'instauration du régime présidentiel dans la Constitution. Éric Simon-Zué, expert de la commission politique.
Il ne faut pas oublier que la transition actuelle a pour ambition première la restauration des institutions. Et donc ce que nous voulons, c'est des institutions fortes. Et je crois que ce régime permettra effectivement d'atteindre cet objectif.
Pour Franck Djimbi, autre panéliste du dialogue, l'adoption du régime présidentiel calqué sur le modèle américain est un sujet de préoccupation.
En réalité, le pouvoir américain est fait de négociations incessantes et permanentes entre l'exécutif et le législatif. Donc cette séparation rigide des pouvoirs est en réalité un mythe qui n'existe que dans les manuels.
Enfin, le doute est levé sur une possible candidature du général Oligui à la présidentielle d'août prochain. Les résolutions du dialogue lui autorisent et excluent de la course le reste des responsables de la transition. L'application des recommandations des assises est dès à présent soumise au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il reçoit ce mardi le rapport des travaux dirigé par l'archevêque de Libreville, Mgr Iba Abba. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
Le week-end a été agité pour les mouvements syndicaux au Bénin. Leur marche contre la vie chère prévue samedi a été dispersée par un déploiement policier, arguant du manque d'autorisation. Une vingtaine d'arrestations ont eu lieu, incluant 3 secrétaires généraux de confédérations syndicales. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Blocage, tension, confusion et dispersion. Ainsi se résume la marche qui se voulait pacifique des travailleurs. Les syndicats voulaient dénoncer la faim, la cherté de la vie et la situation précaire des salariés. Mais un dispositif sécuritaire a empêché les manifestants de rallier les différents lieux de regroupement. Simplice est au chômage depuis 5 ans et espérait crier son ras-le-bol samedi dernier.
Le pays est dur, tout est cher. On n'arrive même pas à manger à notre faim. On mange une fois par jour. Les foyers ne sont plus vraiment foyers qui vivent dans la paix. Qu'est-ce que c'est ça? Le pays va mal.
Bertin, lui, est conducteur de taxi-moto. Malgré son diplôme en comptabilité et gestion, il a laissé sa moto le temps d'une matinée pour protester contre la situation difficile dans laquelle il dit vivre.
Il n'y a pas de boulot, les particuliers ne trouvent pas à faire. C'est que ce qui est encore pire dans toute cette affaire, il ne nous explique pas. Il n'y a aucune presse qui a le courage de parler aujourd'hui.
Bonaventure Ahitieme est le secrétaire général adjoint de la CSTB. Il donne ici les raisons pour lesquelles les confédérations syndicales tenaient à la marche empêchée du week-end dernier.
La faim aujourd'hui au Bénin dépasse les limites. Les produits de base sont excessivement chers. Et lorsque nous constatons cet état de choses, nous ne pouvons pas être le porte-parole des travailleurs et croiser les bras. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire la marche d'aujourd'hui. Ce n'est que ça, plus d'autres choses. Et c'est pour ça que nous disons de peu partout que c'est une marche pacifique, même entre nous. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela soit fait. Nous n'avons pas voulu, même que des politiciens se mêlent à notre marche. On n'a pas voulu ça. Parce que ce n'est pas une marche qui a autre chose derrière la tête, non.
Face au dispositif sécuritaire qui ne laissait aucune marge de manœuvre, plusieurs arrestations ont été opérées. Ce seraient des manifestants qui auraient tenté de troubler l'ordre public, selon les autorités. Dans le lot, il y a les 3 secrétaires généraux des centrales syndicales. Ils seront libérés tard dans la nuit du samedi. Anselme Amousseau, l'un des responsables syndicaux arrêtés, annonce juste après sa libération que lui et ses collègues reviendront à la charge.
Déjà le mercredi prochain, nous invitons tous les travailleurs, tous les citoyens à la bourse du travail pour un meeting d'information, de mobilisation et de prise de décision. Cette marche-là, elle a besoin d'avoir lieu pour justement montrer à la gouvernance actuelle que les temps ont changé, que les citoyens n'ont pas peur. Et si nous ne réorganisons pas cette marche, on ne serait pas digne de la solidarité dont nous avons profité aujourd'hui. Elle va être reprogrammée. Et si quelqu'un veut interdire la marche, qu'il l'interdise clairement pour que chacun sache quelle est la mission que chacun joue dans la République.
Après l'annonce de la marche des travailleurs, le gouvernement avait tenté des négociations car le jeudi dernier, 3 confédérations syndicales ont été conviées à une séance d'échange présidée par le ministre d'État Blaye Biotchane. Malgré cela, les syndicalistes avaient maintenu la marche. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakidza à ce micro. Fatouma Alimas Kalala a assuré la production et la réalisation. à la console de Nachwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.